On va parler char avec Sam Lessard dans les prochaines minutes, mais juste avant, petit coup d'œil dans le trafic. Il y a un accident sur la 40 direction ouest en ce moment. C'est passé, je vous dirais, Jean Gauvin. Donc, peut-être un genre de 500 mètres après cette zone-là, juste avant l'accès à chemin du lac. Et c'est compliqué, là. C'est un bon 2 km de trafic. C'est très intense. Secteur évité. Je vous conseille fortement de prendre le boulevard Amel. Mais peut-être un peu avant Jean Gauvin, parce qu'à Jean Gauvin, les gens ont eu ce réflexe-là. Il y a du trafic du début de la 40 jusqu'à l'accès à la 138. Donc, cette zone-là, elle est bien compliquée en ce moment. L'accès au pont, ça va relativement bien. Un petit peu de ralentissement à la tête des ponts, mais vraiment rien de majeur. Capitale-Est, par contre, ça s'est gâté dans les derniers 15-20 minutes. On est avant Masson-Lormière et c'est comme ça jusqu'à Laurentienne. Même qu'il y a un peu de trafic dans le coin de Bourg-Royal pour se rendre vers Seigneurial. Capitale direction ouest, Henri Bourassa. Jusqu'à Pierre-Bertrand, c'est compliqué. Du Ballon, Robert Bourassa, après Père-Lelièvre, direction nord, ça se gâte pour vous autres jusqu'à Le Bourgneuf. Laurier, pas évident non plus avec les travaux. Dans les deux directions, surtout dans le secteur des centres d'achat et sur la rive sud, vers ouest, de Président Kennedy jusqu'à Taniata. C'est bien compliqué pour vous autres et quelques zones de ralentissement sur Guillaume Couture, surtout à l'angle de Alphonse Desjardins en raison des travaux. Directement à côté du club de golf, des galeries Chagnon, etc. Bref, c'est un peu le bordel en ce moment. Dans ce coin-là, vous voyez quelque chose sur les routes, avez une mise à jour pour nous concernant l'accident sur la 40 ouest, tout près de Jean Gauvin, 670-9098. Chez Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'ils assurent, et ça, ça rassure. Changez, vous pourriez économiser sur votre assurance habitation.
Le retour.
And I don't like it at all, okay?
De Radio X.
Okay?
En vacances.
I don't like it at all.
Radio X.
Vous écoutez le retour de Radio X. Côté météo, ça ressemble à quoi tout ça? C'est un 24 degrés nuageux, peut-être un peu plus aujourd'hui. C'est pas si beau que ça, puis ça va descendre cette nuit avec un minimum de 11 degrés. Demain, ça sera pas si chaud non plus avec un max de 21. Encore une fois, un minimum de 11, mais pour le week-end, bonne nouvelle, du 26 vendredi, du 28 samedi, plein soleil. Et dimanche, ça a changé! On nous annonçait de la pluie, mais finalement, c'est vraiment dans le bon sens que ça va avec un max de 28, de 26 même pour lundi. Ça va être beau, on annonce des averses d'ici mardi prochain, mais c'est encore bien loin. De RPM, on est bien content d'aller jaser avec Sam Lessard, chroniqueur automobile. Salut Sam, comment tu vas?
Salut, ben ça va très bien.
Yes sir, t'es rendu dans ton patelin, t'es revenu, c'est fini le tournage?
C'est fini, revenu à la maison, puis on se prépare parce que la semaine prochaine, ça recommence déjà. Okay. Je passe la semaine à Québec, là, la semaine prochaine, puis Charlevoix la semaine d'après, fait que le break est pas bien long.
Ouais, j'imagine. Puis est-ce que tu roules encore ton F-150 Lightning? Est-ce que tu essaies une coupe de véhicule entre-temps pour te déplacer de ton bord?
Ouais, ben là, actuellement, je roule en Mazda 3. C'est le véhicule que j'ai, véhicule de presse que j'ai pour cette semaine. La semaine dernière, j'avais un Jeep Wrangler 392 avec un V8. Là. Il avait éliminé le V8 dans le Wrangler en 2025, puis ils l'ont ramené en 2026 avec une nouvelle édition.
Okay.
Ça a comme juste pas de bon sens. Là. Tu sais, c'est un V8 6.4 de 470 chevaux. 470 livres de torque dans une petite bine de même. Là, c'est,
hey boy, hein?
Ouais, c'est puissant à un niveau où ça en est quasiment dangereux. Tu sais, t'écrases ça au fond, puis il tire à gauche, il tire à droite. C'est quasiment trop.
Quand t'es le moindrement mature au volant, de pas
ouais. Hein? Non, ben, puis je te dirais que oui, il faut être très mature justement pour prendre le volant avec ça parce que c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Là. C'est vraiment assez bestial comme machine. Puis tu tiens le volant à deux mains quand tu y donnes ça un peu là, pour être sûr de rester sur la route. Ouais. Et non prendre le décor, mettons.
J'imagine. Hey, si vous avez des questions pour M. Sam Lessard qui est avec nous autres pour deux blocs, ben c'est très simple, 88-670-9098. On va faire un bloc plus actualité automobile pour ce premier segment-là, puis le deuxième, on va prendre vos questions sur la messagerie texte de Radio X. Hey, je veux t'entendre parce que vous avez sorti une exclusivité dans les dernières heures concernant la lunette arrière, que ce soit des Honda HR-V, des CR-V, des Acura RDX. Il y a plusieurs gens qui vous ont envoyé des photos, ou du moins ça circulait sur les réseaux sociaux. Je vois des gens, exemple,
beaucoup,
qui restaient au Nouveau-Brunswick, au Québec, puis ça allait éclater en arrière, puis on comprend pas nécessairement qu'est-ce qui se passe, là.
Ouais, ben c'est exactement, puis c'est justement pour ça que ça finit en recours collectif, là, tu sais, des problèmes quand même comme ça qui ont une certaine récurrence. On a vu ça dans d'autres, chez d'autres constructeurs, notamment il y a quelques années chez Kia avec les moteurs de Kia Forte, les moteurs 2 litres qui étaient extrêmement problématiques, qui sautaient à répétition. Puis le constructeur prenait comme pas vraiment ses responsabilités. Fait qu'à un moment donné, ben, les propriétaires s'organisent entre eux. Puis il y en a un qui est porteur de ballon, là, j'ai envie de dire, là, qui va décider, ben, tu sais, moi, je vais me faire le porte-parole de tout ça, puis entamer une action collective. C'est ce qui se passe dans le cas de Honda. Moi, c'est vraiment pas la première fois que j'entends parler de ce problème-là, de gens qui ont des. Ben, tu sais, HR-V, c'est un des véhicules dont on entend le plus parler là-dedans parce que c'est un véhicule quand même assez populaire. Puis, tu sais, quand il arrive une explosion carrément, parce que c'est ce que c'est, là, de la vitre arrière du véhicule, je veux dire, ça surprend. D'un, parce que c'est assez violent. Tu sais, ça explose d'un coup sans que tu t'en attendes, premièrement.
Ça, ben, fin, là. Non, c'est ça, t'as pas prévu ça dans ta
journée. Deuxièmement, ça brise jamais une vitre arrière d'un véhicule. C'est pas un pare-brise, là. Tu sais, un pare-brise, on s'attend à un moment donné. Bon, on reçoit une roche, il peut y avoir une fissure, un petit éclat dans le verre, mais une vitre arrière, ça arrive jamais. Fait que bon, ça rend cette affaire-là encore un peu plus exclusive.
Sais-tu si des fois ça avait un rapport avec la température, un écart trop important, ou je sais pas trop, non?
Ben, je sais pas trop. Tu sais, il y en a qui disent que c'est vraiment un problème de conception, soit de conception du verre en tant que tel ou du véhicule en lui-même. Est-ce qu'il y a trop de flexion, par exemple, autorisée dans le haillon, mettons, là, qui ferait que la structure viendrait à tordre puis fait un stress sur le verre qui finit par éclater, ou vraiment un verre d'une mauvaise conception qui a été utilisé pendant trop longtemps puis qui fait qu'il y a des répercussions à un moment donné sur des propriétaires. Puis, tu sais, là, ça touche trois modèles qui proviennent du même constructeur. Tu sais, Honda, Acura, c'est toute la même affaire. C'est tout le même constructeur qui fait peut-être affaire avec le même fournisseur. Fait qu'il y a peut-être, une piste de solution de ce côté-là. Tu sais, là, je m'aventure, là, j'y vais d'hypothèse, mais ce serait pas impossible que ce soit un fournisseur qui ait fourni justement des pièces qui étaient peut-être pas dans la meilleure qualité, mettons-le.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'imagine qu'on va avoir une mise à jour de ça éventuellement.
Bien sûr. Oui, c'est sûr.
Je veux t'entendre sur une autre nouvelle que j'ai vue passer, que j'ai trouvée bien intéressante, concernant un garage spécialisé de Saint-Isidore qui a récemment découvert un bloqueur de kilométrage, parce qu'on sait que dans le temps, ça se faisait presque à mitaine, celle-là. Tu descendais ça avec ta machine, bonsoir, c'est terminé.
Mais là, drill sur le câble de la transmission à l'envers, là, quasiment.
Oui, exact. Ça faisait à job, puis tu descendais ça de 50, 60 000 kilos, puis on n'en parlait plus. Mais là, maintenant, c'est que tu as des machines avec les véhicules modernes qui peuvent embarquer dans le système de tout ça, puis c'est un bloqueur littéralement de kilométrage. Fait que voiture d'occasion, etc., ben, tu peux avoir une couple de fraudes qui sont possibles.
Moi, j'avoue que je suis tombé en bas de ma chaise parce que je connaissais déjà le stratagème de, on va dire, reprogrammer le kilométrage du véhicule. En un tour de main, ben, t'sais, il affiche 125 000 km, puis whoop, bang! Il en affiche 63, là, tu sais, on a vu ça déjà, mais là, c'est vraiment un dispositif qui est, pour les gens qui ont peut-être pas vu passer ça, là, un dispositif qui est ajouté au véhicule par le propriétaire. On se doute que c'est le propriétaire du véhicule qui va ajouter ça, mettons, dans le cas d'une location. Puis tu peux indiquer au bidule, via les systèmes déjà embarqués dans le véhicule, de dire, ben, tu vas ajouter 0 % du kilométrage que je fais, 10 % 25 % ou 100 % Donc, si, mettons, vous le mettez à 10 % ben vous faites 100 km, ben il y en a juste 10 sur le compteur.
Hey boy, qu'est-ce que tu fais du 50 000 par année? Comment ça paraît, là?
Il y en ajoute seulement 5 000, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, je me mets dans la peau d'un client qui est en location, qui paye une location 12 000 ou 16 000 km par année, mais qui fait, je sais pas, 40 000 km par année avec son véhicule, mais qui a un bidule de même. Il arrive à la fin de sa location, ben il n'y a pas de frais d'excédent de kilométrage, tu sais.
Puis sais-tu si c'est certains modèles qui sont plus visés que d'autres ou c'est plus facile, en guillemets?
Ben, je sais que le garage en tant que tel, ce qu'il a répertorié, c'est un véhicule de marque Audi. À la suite d'une réparation, changé la batterie, ils ont fait une espèce de road test, puis s'est bien rendu compte que le kilométrage ne montait pas. Fait que là, ils ont creusé un peu plus loin pour savoir c'était quoi le problème. Puis je pense que c'est en demandant à ChatGPT qu'est-ce qu'il pouvait penser de ça. Puis il a dit, ben, le véhicule serait peut-être muni d'un bloqueur de kilométrage. Fait que là, ils ont fait des recherches un peu plus, puis ils ont trouvé ce bidule-là, tu sais. C'est quand même assez flyé. Puis dans les recherches que le garage a fait, moi, je n'ai pas poussé ma recherche plus loin que la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, là, mais il disait qu'il y a un site Internet où c'est possible de commander ce bidule-là et ce serait pour toutes les marques, des véhicules allemands, des véhicules japonais, des véhicules américains, peu importe. Là, vraiment, ce serait un bidule qui permettrait de... Mais c'est ça, qui est disponible à peu près n'importe quoi. Fait que voilà, soyez... Moi, je veux pas faire la promotion de ça parce que je me dis, tu sais, c'est frauduleux. Puis, je veux dire, à un moment donné, quand on utilise un véhicule, ben, il faut prendre ses responsabilités. On fait 40 000 km par année avec, ben, c'est 40 000 km, c'est tout. C'est pas 4 000, c'est pas 12 000, c'est 40, tu sais. Mais, il faut faire circuler le message quand même, non pas pour la publicité, mais pour dire aux gens qui achètent un véhicule d'occasion, redoubler de prudence. C'est important, encore une fois, on le répétera jamais assez, une inspection mécanique avant de procéder à l'achat du véhicule, c'est extrêmement important. Je comprends que dans l'inspection, ils vont peut-être pas aller jusqu'à défaire le tableau de bord pour voir si le bidule est installé, mais il y a des signes indirects, tu sais. Est-ce que les pédales sont trop usées, les bushings de suspension, les sièges, etc., tu sais, vont permettre de peut-être, bon, mettre la puce à l'oreille et dire, hey, ce véhicule-là, il y a peut-être plus que le 50 000 km qui est affiché au compteur. Il y en a peut-être 150, tu sais. Fait que ça vaut la peine quand même de faire une inspection mécanique. Ça coûte 200$ puis tu peux te sauver bien des problèmes.
Moi, Sam, justement, je suis quelqu'un qui roule beaucoup, beaucoup. On parle d'à peu près 50-60 000 km par année. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mes chars, je les démonte un après l'autre.
Ouais.
Puis, des fois, j'aimerais ça pouvoir prendre tout ce temps-là, passer sur la route pour me pogner le beigne, faire des siestes derrière le volant de ma Tesla qui se chauffe tout seul. Mais rendu en 2026, est-ce que la conduite autonome, c'est vraiment ce qu'on nous promet? Est-ce que c'est rendu... est-ce que ça marche pour vrai ou c'est encore juste du rêve, cette histoire-là? Vous l'avez testé à RPM?
Oui, on l'a testé souvent, d'ailleurs. Puis il faut nommer une chose, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, les véhicules qui ont une conduite, on ne peut pas dire autonome, on dit semi-autonome. C'est une conduite qui se fait toujours sous la supervision du conducteur. En aucun cas... oui, c'est ça. Il faut toujours qu'il soit derrière le volant et toujours porte attention à la route pour reprendre le contrôle du véhicule si jamais il arrive quoi que ce soit. Bon, les véhicules sont conçus de telle sorte qu'ils vont surveiller le conducteur pour s'assurer qu'il prête toujours attention à la route. Puis ça, ben c'est obligatoire que ce soit fait comme ça. Il n'y a pas de véhicule actuellement dans lequel tu peux... je vais dire, mettons, de série, là, de quand il sort de l'usine, te coucher, puis t'endormir, puis que le véhicule te conduit.
Tu dis quand il sort de l'usine, ça veut dire qu'il y a du monde qui font des petits passe-passe, puis qui s'arrange.
Ben oui, il y a du monde qui font des petites passe-passe, puis qui s'arrange pour que ça se fasse. Là. Bon, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Là. On trouve sur Internet facilement des gens qui trouvent une manière de contrer les systèmes de sécurité qui sont embarqués dans les véhicules pour pouvoir vraiment détourner leur attention de la route. Mais à la base, il faut garder une chose en tête, le système n'est pas conçu pour être utilisé sans supervision. Il a beau
surtout,
être très performant.
Surtout avec nos routes, hein, mais on ne sait jamais avec la quantité industrielle de nids de poule.
En plus, puis là, ces systèmes-là fonctionnent aussi avec le marquage, les lignes que sur la chaussée. D'après moi, 50 % du marquage au Québec est disparu, il n'existe pas.
Ben oui, puis on voit qu'en Californie, San Francisco, il y a des voitures taxis qui sont 100 % autonomes, mais je veux dire, il fait 25 degrés à l'année à San Francisco, 15 degrés, c'est toujours des belles températures. Tu n'as pas testé le moment où ta caméra avant avait été pognée, qu'il y a un peu plus de verglaçante sur le bumper.
Oui, puis aussi, ces voitures-là en Californie sont dans un périmètre circonscrit qui est prédéfini, tu sais, je suis pas sûr que si tu disais ce véhicule-là, bon, pars de Los Angeles puis rends-toi à Sherbrooke, je suis pas sûr qu'il va être capable de faire la route, tu sais. Tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, Louis, tu sais, les véhicules Tesla, ce sont les plus avancés actuellement sur le marché, ça s'améliore de semaine en semaine. Tu peux dire, dans ce véhicule-là, t'embarques, t'es dans ta cour chez vous, t'as le nez au garage, mettons, tu dis, je m'en vais à telle place, tu pèses sur le bouton, puis il va gérer tout. Il va te sortir de ton entrée de cour, il va circuler en ville, il fait les arrêts, il accorde la priorité aux piétons quand c'est le cas. S'il y a un arrêt avec 4 stops, bien, il va donner la priorité au véhicule qui est arrivé avant lui, embarquer sur l'autoroute, faire les changements de voie, gérer la vitesse, débarquer de l'autoroute, s'en aller, puis rendu à destination, il trouve même un stationnement sans que tu aies besoin de toucher au volant. Ça, c'est vraiment le système le plus évolué, mais toujours sous la supervision du conducteur.
Puis on sait que Tesla veut sortir éventuellement le Cybercab. C'est un genre de taxi qui est 100% autonome. Je pense que c'est juste pour l'instant dans des plans. On n'est pas sur le point de sortir un modèle même.
Mais tu sais, moi, depuis le début que j'étudie l'automobile, tu sais, même je recule dans les années 2000. Tu sais, on disait, ben, 2020, là, il y a des voitures qui n'auront pas de volant. Ben, regardez où ce qu'on est. On est en 2026, ça fait 6 ans et toutes les voitures ont encore des volants. Puis on parle encore qu'à un moment donné, il va y avoir une voiture sans volant. Fait que oui, ça va arriver, mais plus tard qu'on pense, tu sais. Il y a toujours des développements, ça avance toujours, mais ça se fait à pas de tortue. Je pense pas que c'est une question de capacité, parce que j'ai l'impression que les entreprises qui s'intéressent à ce pan-là de l'automobile, la conduite autonome, ben, mettent beaucoup d'énergie là-dedans, puis nous ont prouvé que ça fonctionne bien. Puis même qu'à terme, si beaucoup de véhicules sont autonomes, ben, ça va améliorer la fluidité sur les routes, ça va diminuer le risque d'accident. Tu sais. Mm-hmm. C'est ça aussi le but à terme. Mais il va falloir aussi que les réglementations suivent, que les pays ajustent leurs réglementations pour permettre à ces véhicules-là de circuler sans conducteur et sans supervision. Puis il y a aussi tout un flou éthique. Le véhicule, si, mettons, arrive dans une situation difficile, est-ce qu'il va choisir de... je sais pas, frapper une personne handicapée dans une chaise roulante ou frapper un animal ou, tu sais...
Tu sais, le jour où il va tuer quelqu'un, Sam, parce que ça va arriver à un moment donné, si on se dirige dans cette zone-là, il va arriver quoi, là, t'sais?
La responsabilité, elle revient à qui? Est-ce qu'elle revient au fabricant du véhicule, au conducteur, à la personne qui est dans le véhicule, qui devrait superviser, même si le système est très performant? C'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui encore, le conducteur qui est derrière le volant doit superviser la conduite du véhicule autonome. C'est que ça prend un responsable s'il arrive quoi que ce soit.
Mais
là.
Oui, mais oui.
Puis ça s'est vu en masse aux États-Unis. Là, des gens qui, tu sais, aux États-Unis, on poursuit tout le monde pour tout et pour rien. Mais il y a des gens qui ont poursuivi Tesla parce que le système n'avait pas détecté un camion semi-remorque puis est rentré dans le derrière du camion semi-remorque à 170 km/h parce que le gars avait mis la vitesse au max. T'sais.
Moi, je sais que les taxis autonomes à San Francisco aussi, une fois, il y a quelqu'un qui était resté coincé dans le taxi, faisait des tours, ça n'arrêtait jamais, il voulait arrêter, mais c'était pas possible. Fait que, il m'en arrivait des bugs, des lags.
Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de l'histoire. C'est comme ça qu'on va se rendre à la destination finale, j'ai l'impression.
Ben oui, c'est comme quand on nous disait en 70, dans les années 2000, les chars vont voler.
Oui,
c'est ça. Et puis, dernière affaire avant d'aller en pause, parce que souviens-toi, durant la COVID, on nous disait hey, tabarouette, tu vas l'avoir ton char, mais ça se peut que ça prenne 2-3 ans. Puis, il y a une fille qui vous a écrit du côté d'RPM, elle s'est commandée un Toyota RAV4 Woodland 2026 en décembre 25. Elle a fait même un dépôt de 500$ à la mi-janvier. Ça m'a rappelé, moi, durant l'époque COVID, que moi aussi, je me commandais un RAV4. Je pense que ça a pris 7-8 mois. Mais elle, les délais d'attente sont encore très longs. Est-ce qu'en général, puis on va parler du RAV4 Woodland, puis RAV4 en général aussi pour la prochaine année 26 et tout, est-ce qu'on a encore beaucoup de délais pour les fabricants actuellement en 2026?
Ça dépend vraiment des constructeurs. T'sais, dans le temps de la COVID, on se rappelle, on passait devant les concessionnaires automobiles, puis il n'y avait rien d'un cours. Là. Rien. Là. C'était... Bon, ils passaient à gratte pendant l'hiver, rien que pour dire que la côte a déneigé. Là. C'était pas pour montrer les autos. Il n'y en avait pas. C'est pas compliqué. Là, on a retrouvé un certain inventaire. Il y a beaucoup plus de camions pleins de grandeur. Des véhicules très populaires, évidemment. Là. Mais il y en a dans les cours de concession. Il y a des VUS pour la plupart des constructeurs. C'est moins long à attendre des véhicules, mais il y en a pour qui c'est très long. Tu sais, encore, on pense chez Toyota, c'est un bon exemple. On parle du RAV4. RAV4, c'est un véhicule qui est assemblé au Canada. Mais là, il faut dire que dans cette situation très précise, c'est que le modèle 2026 vient d'arriver sur le marché. Fait que là, il y a une petite transition à faire entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Puis ça, bien... Entre les deux générations, ben il y a on rééquipe l'usine, on forme les gens, fait qu'il y a un certain ralentissement de la production. Fait que c'est pas anormal que ce soit pour un RAV4 ou pour un autre modèle qu'en début de production, il y ait une certaine période d'attente. Mais il reste que chez Toyota, tu sais, moi, je viens de magasiner pour m'acheter un véhicule personnel, puis il y a des véhicules, dépendamment de la couleur que tu prends ou de la version du moteur que tu prends, ça peut prendre un an et demi avant de l'avoir, là, encore aujourd'hui. Parce que la demande est élevée, de un, et la production est basse. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils vont au premier arrivé, premier servi. Si t'en veux un, ben mets-toi sur la liste, mon homme, puis attends.
Ouais, parce que la demande est forte, by the way. Hey, ouais. On est avec Sam Lessard de RPM. On va faire une petite pause, puis au retour, on prend vos questions. Donc, si vous en avez sur la messagerie, on va lire ça au 418-670-9098. On revient dans quelques instants. Vous êtes dans le retour de Radio X.
Le retour de Radio X.
C'est de la snoute. La snoute. En vacances.
Radio X.
C'est heure pile, c'est le retour de Radio X en vacances sans DH, mais c'est Jordan, Mel et Louis qui vous accompagnent encore pour la prochaine heure en attendant l'arrivée du Carbo Show avec M. François Gariépy qui va s'installer pour la ligne ouverte avec Matt à compter de 18h. On est avec Sam Lessard de RPM, on jasait une couple de sujets dans le premier bloc, mais le deuxième bloc, c'est la tradition. Si vous avez des questions pour Sam, on va les prendre sur la messagerie texte de Radio X, donc c'est là que ça se passe au 418-670-9098. On va commencer avec, c'est Claude qui nous écrit une petite question ici. C'est quand l'arrivée, Sam, du nouveau Hyundai Elantra 2027? Parce qu'on nous dit que ça promet beaucoup.
Ouais, c'est une bonne question. Faudrait d'abord que le constructeur le dévoile, parce qu'on a dévoilé pour le moment la Hyundai Avante, qui est l'équivalent coréen, si on veut, de l'Elantra.
Okay.
Fait que la version Elantra, qui va être à peu près pareille au niveau du style, ben, n'a pas encore été dévoilée par Hyundai Canada ou États-Unis, là, ce qui pourrait nous donner une idée de l'arrivée du modèle. Fait que, tu sais, 2027, peut-être ça va être encore le même modèle qu'on a actuellement, puis le nouveau va arriver pour 2028. Bref, difficile d'y voir clair, là, parce qu'on n'a pas vraiment d'indication très, très claire de la part du constructeur. Fait que, tu sais, moi, je dirais qu'on va en savoir plus d'ici 6 mois, quand est-ce que ce véhicule-là va arriver.
Puis, on a-tu des bonnes impressions des nouveaux modèles électriques qui sont arrivés? Tu sais, je pense à l'Ioniq. C'est-tu l'Ioniq 6 qui était rentré? Bref, quand même beaucoup de véhicules Hyundai là, qui ont fait leur apparition, modèles électriques, surtout Kona et compagnie. Là.
Ouais, ben on a le Kona qui est là depuis déjà 2019, je pense. Puis, on a eu l'Ioniq 5, l'Ioniq 6, l'Ioniq 9.
Ouais.
Généralement, des véhicules très, très performants comme véhicules électriques. Je veux pas dire, tu sais, performance, pas juste l'accélération, tout ça, mais ce qui est important avec un véhicule électrique, les gens sont peut-être moins familiers avec ça, mais la recharge rapide, ces véhicules-là sont capables de recharger de 10 à 80 % en l'espace de 18-19 minutes. Fait que ça, c'est très, très intéressant.
Oh, c'est bon.
Oui, c'est très bon. C'est parmi les plus concurrentiels à être disponibles sur le marché. Pour les véhicules de marque généraliste, parce que le BMW vient d'arriver avec un nouveau modèle qui recharge 10 à 80 % en 14 ou 15 minutes, je pense, et pour redonner environ 400 km d'autonomie. Là. Fait que ça, c'est quand même encore plus impressionnant. Mais reste que les modèles électriques chez Hyundai, oui, très, très bonne performance. Il y a eu un gros pépin, une composante qui a été partagée à travers tous les modèles, sauf le Kona, ce qu'on appelle un ICCU, qui gère, si on veut, l'énergie à travers le véhicule. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu des pépins avec ça.
Okay.
Mais là, le constructeur a réparé la pièce, fournit maintenant des pièces en quantité suffisante, fait que les consommateurs ne sont pas laissés en plein. Le constructeur a même, ça c'est assez spécial, allongé la garantie de la pièce jusqu'à 15 ans ou 290 000 km, aussi bien dire.
Jusqu'à sa mort, au pire.
Oui, jusqu'à la vie du véhicule. Là, ouais. Fait que c'est pour dire à quel point le constructeur a pris ça au sérieux. Puis rapidement, je veux juste dire que les constructeurs, quand ils font des manœuvres de même, ben c'est des manœuvres pour s'assurer d'avoir un bon service à la clientèle, une bonne satisfaction de clientèle, montrer qu'ils ont à cœur ce que la clientèle vit. Puis ça, c'est toujours positif pour l'image du constructeur, contrairement à d'autres qui poussent les problèmes sous le tapis, mettons.
On a un auditeur ici qui a un WRX 2017 oui. manuel. Il oui. trouve le nouveau modèle de WRX assez laid, donc lui, il veut quand même rester dans le même genre de véhicule. Donc, on parle performance 4 portes. Il veut quelque chose de quand même récent, là, jusqu'à 5 ans d'âge. Il faut prendre ouais. en compte qu'il y a 2 enfants, fait que le 4 portes est quand même très important. Où est-ce qu'il peut s'enligner?
Ben, 4 portes, si on veut un 4 roues motrices manuel, ben, la meilleure option, si on a 2 enfants, c'est une Volkswagen Golf R. On peut pas l'acheter neuve parce que à partir de 2025, elle ne se fait plus manuelle. Il faut la prendre automatique absolument, mais 2022, 23, 24, mettons, c'est possible d'en trouver une manuelle si on veut encore en avoir une à bâton, en bon français. Sinon, il y a aussi la Toyota GR Corolla qui existe, qui est un autre bébite bien le fun, 4 roues motrices, mais c'est beaucoup moins confortable et beaucoup plus petit que la Golf R. Fait qu'il est peut-être un peu plus sportif, la GR Corolla, mais moins... équilibré, mettons, comme auto, si on veut s'en servir à tous les jours. Fait que la meilleure option, ça serait une Golf R.
Ici, on a un auditeur qui demande, pour un Cadillac XT4 2025, est-ce que c'est un véhicule à problème? Est-ce que c'est bon pour le long terme?
Oh, c'est pas un véhicule à problème du tout. On est arrivé avec ça, le XT4, en 2017 ou 2018, je pense. Puis ça n'a pas bien changé depuis ce temps-là. Fait que non, vraiment pas un véhicule à problème. Moi, j'ai pas de crainte à garder ça à long terme. Bon petit véhicule, bien le fun, bien assemblé. Fait que, ouais, c'est un bon choix dans cette catégorie de produits.
On veut t'entendre, Sam, sur le Voxstar. Je sais que tu nous en avais parlé il y a dessus oui. une couple de mois. Parce que lui, il veut un petit VUS, j'ai pas une trop grosse consommation d'essence. Qu'est-ce que tu penses de ce char-là?
Le Taos, les gens l'aiment beaucoup parce que je pense qu'il est marqué Volkswagen en avant. Puis c'est encore une marque qui attire beaucoup les gens à cause de l'aura. Puis bon, on aime peut-être l'image de cette marque-là, véhicule peut-être un peu sportif, puis qui nous donne, je sais pas, une apparence d'être de jeunesse ou je ne sais trop. Mais le Taos, c'est vraiment pas un véhicule qui est concurrentiel dans cette catégorie de véhicules-là.
OK.
La consommation est très élevée. La transmission, ça marche tout croche.
Tu parlais des problèmes électroniques également?
Ah, ben c'est ça, c'est commun chez Volkswagen. Là, on a ça pas mal partout. Problèmes électroniques, on a eu des problèmes de turbo aussi là-dedans. Puis tu sais, c'est un véhicule qui se vend assez cher. Puis quand tu t'assois là-dedans, ben tu sais, encore un petit écran de 8 pouces, tu sais. Bon, il y a des gens qui vont me dire, ben écran de 8 pouces, moi je veux quelque chose de pas compliqué. C'est vrai, mais pour le même prix, tu es capable d'avoir, mettons, un Hyundai Kona qui lui va te donner deux écrans de 12 pouces, bien meilleure qualité de finition, une meilleure fiabilité, ça va bien mieux sur la route. On est rendu là, à un moment où les Hyundai et les Kia battent des Volkswagen. On est rendu là depuis déjà quelques années. Puis il ne faut pas lever le nez sur ces constructeurs-là parce qu'ils font vraiment des très bons produits. Un autre véhicule qui peut être bien intéressant, c'est un Subaru Crosstrek.
Ben oui, ils ne sont pas si chers que ça en plus.
Ben c'est ça, puis extrêmement populaire. Il s'en vend 13-14 000 par année au Québec. Mais si vous prenez un Crosstrek, vous prenez avec le moteur 2.5 pour avoir un petit peu plus d'agrément, un peu plus de puissance, puis vous allez avoir un très, très bon produit entre les mains, pas mal meilleur qu'un Taos.
Puis le Forester aussi, quand même, on a des bons
oui.
commentaires, Charles.
Forester un peu plus gros, plus dans la catégorie des compacts, mais ça demeure vraiment un très, très bon produit. Si vous êtes capable d'aller chercher un Forester, je ne sais pas si vous avez besoin de l'espace ou votre budget vous le permet, mais c'est quand même une coche supérieure par rapport à un Crosstrek, qui demeure un bon produit, mais Forester, on en a quand même un peu plus, là.
Quelqu'un ici veut changer de véhicule et se demande si c'est vrai que les assurances coûtent plus cher pour les chars électriques. Dans la même visée, elle veut aussi savoir là, si les batteries restent performantes longtemps, si l'autonomie baisse avec le temps beaucoup, surtout avec les hivers québécois.
Ouais. Oui, c'est vrai que les assurances de véhicules électriques coûtent plus cher, souvent parce que le coût de réparation est plus élevé. S'il arrive une perte totale, le véhicule coûte plus cher, donc c'est sûr que le coût d'assurance est plus élevé. Puis parfois, les réparations sont plus complexes, fait que les assureurs préfèrent déclarer le véhicule perte totale, fait que ça augmente alors qu'il peut continuer de rouler. Là. Il y a vraiment une espèce de... Il y a un stratagème que je comprends très, très mal. Puis il va falloir à un moment donné que les assureurs, mais aussi les constructeurs automobiles rendent leurs véhicules réparables facilement. Ça fait partie aussi de l'équation. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est vrai que le coût d'assurance est plus élevé, mais d'un autre côté, l'entretien est moins élevé, ça coûte moins cher à rouler comme véhicule. Il y a même depuis quelques temps la possibilité d'adhérer à des clubs de recharge qui font que tu te fais carrément payer pour recharger ton véhicule à domicile. Ça diminue encore une fois le coût de possession du véhicule. Fait que même si le véhicule coûte plus cher d'assurance, il y a d'autres endroits où ça coûte moins cher, ce qui fait que, ben, globalement parlant, c'est encore gagnant financièrement. Peut-être pas pour tous les véhicules, mais pour certains véhicules très précis de passer à l'électrique. Et pour ce qui est de la fiabilité de la batterie, ben c'est pour la très grande majorité des véhicules, c'est pas un enjeu. La fiabilité va outrepasser de beaucoup la durée de vie du véhicule. Même les constructeurs garantissent les batteries pour 8 ans ou 160 000 km pour les plus conservateurs et les plus confiants vont garantir 10 ans ou 240 000 km pour la fiabilité de la batterie. Fait que, tu sais, dites-vous une chose, s'ils garantissent pour cette durée-là ou ce kilométrage-là, c'est parce qu'ils ont vraiment confiance que la batterie va durer beaucoup plus longtemps que ça. Puis c'est d'ailleurs ce que les données d'utilisation des gens nous montrent. L'enjeu n'est pas la batterie dans un véhicule électrique, ni les moteurs électriques. C'est souvent ce qu'il y a autour. comme un véhicule à moteur thermique d'ailleurs. L'air climatisé, les systèmes électroniques, l'infodivertissement, etc. C'est ça qui brise, c'est pas la motorisation.
Y a quelqu'un ici qui se questionne sur la fiabilité du nouveau moteur 5.8 de GMC.
5.8?
Oui.
Mmh. Ça me dit rien comme moteur, je cherche dans ma mémoire.
5.7 puis un 6.6?
Oui, c'est ce que je, probablement ça, de ça, de ça dont 5. On veut parler. 7? Oui, parce que dans le Sierra puis le Silverado 2027, il arrive avec un nouveau V8 qu'on appelle Small Block, là, pour les gens qui connaissent un peu les moteurs Chevrolet ou GMC. Là, un 5.7, fait qu'on revient avec la bonne vieille cylindrée 350 comme on avait dans le temps. Je peux rien dire, je ne le sais pas. On ne l'a même pas vu. On ne sait même pas c'est quoi la puissance de ce moteur-là. Ils ont lancé ça en disant qu'ils revenaient avec ça, mais j'en sais pas plus, malheureusement. Puis là, j'essaye de creuser en même temps 5.8. Non, je pense pas qu'il y en ait de 5.8 chez Chevrolet. Dans des Corvettes, on a des 5.2, mais pas de 5.8. Fait que je pense vraiment que c'est 5.7, puis il va falloir attendre.
OK. Hey, on veut t'entendre parce que cette personne-là, un Elantra 2018 qui arrive pas mal à la fin de sa vie, là, 365 000 km, je pense qu'on a fait le tour du jardin puis éventuellement on aurait changé avant justement que le char crash. Yes. Cette personne-là travaille sur la route, CLSC, dans le même style, j'imagine. J'ai pas plus de précision, mais as-tu des suggestions?
Ben, si on a aimé un Elantra, ça peut être un bon choix. Un Elantra hybride, par exemple. Flambant neuf, c'est un véhicule qui est très bien équipé, pas trop cher, qui a démontré une bonne fiabilité. L'autre option, moi, j'irais vraiment pour une voiture hybride. Là. Vous allez voir que l'autre option que je vais donner, c'est encore une fois une voiture hybride. La Toyota Corolla hybride, ça, c'est extrêmement fiable, durable. Vous verrez jamais le bout de ça. Bon, je comprends que là, on fait peut-être beaucoup de...
Oh!
Oh my God! Mon ordi est tombé en mise à jour.
T'es pas sérieux?
Je te dis... Il se passe plus rien.
T'es pas sérieux.
My God.
A perdu Sam.
Je sais pas pourquoi il a planté de même, là. J'ai aucune espèce d'idée. Donc, Sam Lessard nous a malheureusement quittés. Ouais, ben là, écoute, pour
on
le temps qui restait. Ouais, c'était pas mal la fin. Mais merci beaucoup, Sam Lessard, d'avoir été avec nous autres. Bon, finir sa question. T'es quoi déjà un Elantra? Achète-toi un Elantra hybride, chose.
5.8,
là. Achète-toi un Toyota ou de quoi de même.
C'est
voyons, allume, facile. Donc, désolé, Sam, mon ordi a rendu lampe. Pas trop ce qui se passe, mais plus rien qui fonctionne. Ouais, c'est tombé à plat. 17h13 minutes.
Okay.
Ouais, mais merci beaucoup, Sam. Vous écoutez le retour de Radio X en vacances. C'est Jordan, Mel et Louis qui vous accompagnent jusqu'à 18h ce soir. On nous dit qu'il y a un petit problème avec le système informatique. Voilà. On va tenter de réparer le tout et on dira peut-être bye-bye à Sam au retour de la pause.
Le retour de Radio X.
Radio X.